VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 7 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. Au Mali, la junte fixe à 2 ans à partir du 26 mars dernier le délai avant un retour des civils au pouvoir. Au Nigeria, au moins 21 personnes ont été tuées dans l'attaque de dimanche contre une église du sud-ouest. En République démocratique du Congo, au moins 20 civils ont été tués dans un nouveau massacre perpétré par des ADF en Ituri. Au Soudan, le principal bloc politique civil refuse de dialoguer avec l'armée. En Ukraine, poursuite des combats pour le contrôle de Severodonetsk, Washington et Kiev accusent Moscou de faire un chantage aux exportations de blé. N'oubliez pas notre page sport et la Minute Éco pour l'instant, le journal. Surprise au Mali, la junte s'est donné lundi 24 mois pour rendre le pouvoir aux civils. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret qui stipule que les 2 ans de la durée de la période de la transition commencent à partir du 26 mars dernier. Bakassi Koura fait le point.
Le décret du chef de la junte a été lu à la télévision d'État et stipule que la durée de la transition est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cette annonce intervient au surlendemain d'un sommet de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine qui a imposé le 9 janvier au Mali de sévères mesures de rétorsion commerciale et financière pour forcer la junte à présenter un calendrier acceptable de retour des civils au pouvoir. Les colonels qui ont pris par la force en août 2020 la direction du Mali se sont dédiés de leur engagement initial à céder la place à des civils après des élections programmées en février dernier. En début d'année, il projetait même de gouverner jusqu'à 5 années de plus avant le sommet de la CEDEAO, alors que les sanctions accentuent la crise dans le pays. Ils avaient ramené leurs prétentions à 24 mois sans les formaliser comme ils l'ont fait hier soir. Jusqu'alors, la CEDEAO a consenti au maximum à 16 mois. Au sommet de samedi, les dirigeants ouest-africains ont maintenu les sanctions, renvoyant toute décision à un nouveau sommet le 3 juillet. L'effet du décret pris lundi sur les discussions avec la CEDEAO reste à voir. En juillet, il restera 20 mois et demi jusqu'à l'échéance fixée de mars 2024.
Au Nigeria, au moins 21 morts et une quarantaine de blessés, dont des enfants. Tel est le bilan de l'attaque perpétrée par des hommes armés contre une église catholique durant la messe dimanche dans le sud-ouest, suscitant l'effroi dans le pays. L'attaque a eu lieu pendant la célébration de la Pentecôte à l'église catholique de Saint-Francis de la ville d'Owo dans l'état d'Ondo, habituellement épargné par les djihadistes et les bandes criminelles actifs dans d'autres régions du pays. En RDC, le baromètre sécuritaire du Kivu a annoncé hier que des rebelles ADF, forces démocratiques alliées, ont tué au moins 20 civils dans un nouveau massacre dimanche soir dans le village de Bwana-Nsura, territoire d'Irumu en Ituri, dans le nord-est du pays, une dizaine de jours après un autre carnage près de la frontière ougandaise. L'intervention de l'armée s'est produite en retard. « Je suis en colère », a déclaré à l'AFP Dieudonné Malangai, membre de la société civile de la chefferie de Walese Vonkuntu, où se trouve ce village. « Nous sommes actuellement sur le terrain, nous sommes en train de nettoyer la zone et poursuivre l'ennemi », a déclaré pour sa part un officier des FARDC sous couvert d'anonymat. En Ouganda, une figure de l'opposition a été libérée hier après qu'un tribunal a réduit le montant de la caution en espèces qu'il a contraint à passer près de 2 semaines en détention. C'est ce qu'ont déclaré son avocat et un assistant, Nanik Talani.
Kizza Besigye, 66 ans, a été inculpé le 25 mai pour incitation à la violence après qu'il a organisé une protestation contre la flambée des prix des matières premières à Kampala, la capitale. Le juge avait conditionné sa libération au paiement d'une caution de 30 millions de shillings, soit plus de 8 000 $, que Besigye avait refusé de payer, jugeant le montant trop exorbitant. Ses avocats avaient par la suite interjeté appel devant la justice pour obtenir la réduction du montant. Lundi, un juge a réduit la caution à 3 millions de shillings que Besigye a payé avant d'être enfin libéré. Nous apprécions ce que le tribunal a décidé en réduisant la caution. C'est une réduction significative, a confié Erias Lukwago, l'avocat de Besigye. L'opposant a déjà été détenu des dizaines de fois et a perdu 4 élections contre le chef de l'État, Yoweri Museveni, 77 ans. Il appelle à des réductions d'impôts pour compenser l'inflation, mais Museveni refuse, blâmant la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19.
Au Soudan, le principal bloc politique civil refuse de dialoguer avec les militaires. Le pays est dans une crise depuis le coup d'État du chef de l'armée en octobre dernier. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les FLC, Force de la Liberté et du Changement, disent avoir reçu une invitation de l'ONU, l'Union africaine et les organisations régionales est-africaines à une réunion technique avec l'armée mercredi pour établir la transition. Mais elles se sont excusées selon leur communiqué. Les militaires ont accepté la proposition de dialogue. Les FLC posent comme condition préalable au dialogue la libération des prisonniers politiques et l'arrêt de l'usage de la violence contre les manifestants. Lundi, les forces de police ont tiré des grenades lacrymogènes sur des centaines de manifestants descendus une nouvelle fois dans la rue à Khartoum pour réclamer un régime civil. Après la chute d'Omar El-Béchir, les FLC ont signé un accord avec l'armée prévoyant un partage du pouvoir entre civils et militaires et devant aboutir à des élections. La transition a été interrompue en octobre 2021 par le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis, la communauté internationale appelle à un retour des civils au pouvoir avant la reprise de son aide au Soudan. Elle réclame aussi la fin de la répression qui a fait une centaine de morts dans les rangs des manifestants pro-démocratie.
Arrestation aux Émirats arabes unis de Rajesh et Atul Gupta, deux suspects de premier plan appartenant à la famille Gupta au cœur d'un vaste scandale de corruption d'État dans lequel est impliqué l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère sud-africain de la Justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les combats se poursuivaient ce mardi pour la prise de contrôle de Severodonetsk, ville clé de l'Est soumise en déluge de feux russes. La situation y évolue d'heure en heure selon Kiev, qui par ailleurs accuse avec Washington la Russie de faire un chantage aux exportations de blé. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a ainsi accusé hier Moscou de chantage à la levée des sanctions internationales par son blocage des exportations de blé de l'Ukraine. Il a par ailleurs jugé crédibles les informations selon lesquelles la Russie vole des tonnes de céréales pour les vendre à son propre profit avec son blocus naval des ports ukrainiens qui empêche les exportations de céréales et fait craindre des crises alimentaires, notamment en Afrique. Le sommet des Amériques organisé par le président américain Joe Biden s'est ouvert hier à Los Angeles. Le président du Mexique a toutefois refusé d'y participer suite à l'exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Jacques Aristide fait le point.
Pour Washington, l'événement diplomatique vise à inaugurer une nouvelle ère dans les relations des États-Unis avec l'Amérique latine. Mais Andrés Manuel López Obrador, le chef de l'État mexicain qui boycotte le sommet, dit croire en la nécessité de changer la politique qui a été imposée depuis des siècles, l'exclusion. Cuba, le Nicaragua et le Venezuela ne sont en effet pas invités au sommet des Amériques, trois pays montrés du doigt pour leur manque d'espace démocratique et de respect des droits humains. Le gouvernement cubain a qualifié la décision américaine d'antidémocratique et d'arbitraire, tout en saluant le geste de protestation du président mexicain. Des dirigeants de toute la région sont toutefois attendus pour une semaine d'échange, Washington souhaitant montrer les muscles face à la Chine. semaines. Selon Juan González, le principal conseiller de Joe Biden pour l'Amérique latine, le président américain veut promouvoir une vision d'une région sûre et démocratique, ce qui est au fond dans l'intérêt stratégique des États-Unis, dit-il. Sont prévues des annonces sur la coopération économique et la lutte contre la pandémie de Covid-19, de même que contre le changement climatique. Également attendu un éventuel accord de coopération régionale sur l'immigration.
La Minute Éco, Rosine Munezero.
En RDC, le fonds Beyond the Grid for Africa, soutenu principalement par la Suède, a annoncé ouvrir un cycle de financement fin juin 2022. Selon l'agence Ecofin, cet appel à proposition s'élèvera à 16 millions de dollars d'incitation financière au total et il est destiné à mettre en place un système énergétique durable et à rendre plus abordables les solutions hors réseau dans le pays. En 2020, le taux d'électrification était de 19,1% en RDC selon les données de la Banque mondiale. Le modèle de financement proposé par le fonds suédois pourrait contribuer à améliorer l'accès à l'électricité. La quantité de céréales destinées à l'exportation est bloquée en Ukraine en raison de la guerre pourrait tripler d'ici à l'automne pour atteindre 75 millions de tonnes, a alerté lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées. Et cet automne, ce chiffre pourrait augmenter. Les arrivées de touristes internationaux ont été multipliées par 3 sur un an au premier trimestre, portées par l'activité en Europe sur fond de levée des restrictions sanitaires, selon un baromètre publié lundi par l'Organisation mondiale du tourisme. Sur les 3 premiers mois de l'année, 117 millions de touristes internationaux ont été enregistrés dans le monde, soit une hausse de 182% par rapport aux chiffres de la même période de 2021, souligne l'OMT dans un communiqué.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football à la une avec les matchs qualificatifs à la CAN 2023.
Oui, le Burkina Faso tentera d'enchaîner une deuxième victoire face à l'Eswatini. Le Cap-Vert voudra se relancer devant le Togo. La Zambie fait face aux Comores. Mission compliquée pour le Rwanda devant le Sénégal. Dans la seule rencontre d'hier, la Guinée équatoriale a battu la Libye 2-0. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juillet au 23 juillet 2023.
Lors de la première journée, Mohamed Salah a joué blessé contre l'avis de Liverpool.
L'attaquant des Pharaons a joué blessé dimanche avec l'Égypte contre la Guinée, malgré les réticences de son club Liverpool, a confié le nouveau sélectionneur Ehab Galal. Le capitaine égyptien a refusé la demande de Liverpool de lui faire passer des examens avant le match, mais il va le faire désormais, a précisé son entraîneur. L'Égypte joue son prochain match jeudi contre l'Éthiopie à Lilongwe, au Malawi, car les Éthiopiens ne disposent pas de stades internationaux aux normes. Mohamed Salah a connu 2 déceptions cette année, avec son pays échouant au tir au but contre le Sénégal en finale de la CAN, avant de rater la qualification pour la Coupe du Monde 2022 en mars contre le même adversaire et à l'issue du même scénario, les tirs au but.
En Europe, la France a été tenue en échec en Croatie en Ligue des Nations.
Les champions en titre ont fait match nul 1-1 devant la Croatie lors de la deuxième journée de cette Ligue des Nations. La France enchaîne une deuxième rencontre sans succès après sa défaite 2-1 contre le Danemark. Avec un effectif remanié, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étant laissés sur le banc au coup d'envoi, les Bleus ont ouvert le score grâce à Adrien Rabiot à la 52e, mais Andrijo Kamaric a égalisé sur pénalty pour les Croates à moins de 10 minutes du terme de la rencontre.
Platini et Blatter, jugés en Suisse pour escroquerie.
Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, comparaissent pour escroquerie à partir de demain mercredi en Suisse dans l'affaire de paiement suspect qui a brisé en 2015 leur trajectoire aux commandes du football mondial. Jusqu'au 22 juin, le tribunal pénal fédéral de Bellinzone jugera le Français de 66 ans et le Suisse de 86 ans pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres dans le même dossier avant de rendre sa décision le 8 juillet. Les deux alliés devenus rivaux sont accusés d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 1,8 million d'euros en faveur de Michel Platini, selon le parquet. Visés l'un comme l'autre par d'autres procédures en France pour le triple ballon d'or et en Suisse pour Sepp Blatter, ils encourent 5 ans d'emprisonnement ou une amende.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les leaders de Wakitama et autres arrêtés suite à la manifestation pacifique autorisée du 14 mai dernier contre la politique française au Tchad ont été condamnés à un an avec sursis, 50 000 francs d'amende chacun et à 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts en faveur de l'État tchadien. C'était à l'issue d'une audience foraine tenue ce lundi à Moussoro, ville située à 300 km de N'Djamena, la capitale. Un procès boycotté par les avocats de la défense André Kotmadjingar. Notre correspondant à N'Djamena fait le point.
Dans son réquisitoire, l'autorité de poursuite a requis 2 ans d'emprisonnement ferme, 100 000 francs d'amende chacun et 2 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Mais le juge a condamné les 6 leaders à 12 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
C'est un procès de la France contre nos leaders. On a toujours réclamé que le gouvernement fasse preuve de compréhension et de solidarité avec la population qui réclame une autre coopération avec la France. Eh bien, il n'en est rien.
Colère et indignation de l'un des porte-parole de la coalition Wakitama Hadoum Soumaïn Hadoum dès l'annonce du verdict du procès de ses compagnons. C'est un procès politique, dit-il.
La seule chose que le CNT a pu faire, c'est d'arrêter des leaders qui, eux, contestent les politiques françaises. C'est un procès qui est chrysogène. Et donc, nous allons engager des actions. Et par conséquent, le gouvernement est responsable de la suite. Le 28, nous avons dû décaler la grande marche. C'est aussi une perche tendue au gouvernement pour qu'il y ait une situation apaisée. Dans tous les cas, la France va être contesté, que le gouvernement soit d'accord ou non. Ça, c'est un sujet qui est lancé, il n'arrêtera pas.
Indéhension aussi du côté du Conseil de l'Ordre des avocats du Tchad qui ont arrêté les activités dans toutes les juridictions du pays pour protester contre l'arrestation de 2 de leurs confrères et leur transfèrement à la prison de Moussoro ainsi que contre les violations des règles des procédures concernant l'audience dite foraine. Bâtonnier Maître Laguerre Ndirandi Diangro, président du Conseil de l'Ordre.
Le tribunal de grande instance N'Djamena qui se déplace à Moussoro pour tenir une audience foraine qui n'en est pas une parce que Moussoro ne relève pas du ressort territorial du tribunal de grande instance N'Djamena. Donc toutes ces violations des règles de droit, nous les avons dénoncées. Et nous restons dans cette logique-là. C'est pourquoi nous avons demandé que toutes les personnes soient purement et simplement libérées. Et le tribunal a retenu tous les chefs d'accusation en le condamnant à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec sursis. Ce qui est sûr, les avocats constitués pour défendre toutes ces personnes relèveront appel. Et on espère que la cour d'appel entendra raison et annulera purement et simplement cette décision qui, pour nous, n'a pas de sens.
Justement, Maître Gozo Torundidi du collectif des avocats de ces leaders confirme à VOA Afrique qu'ils vont bel et bien faire appel, quand bien même que le dossier soit, selon eux, ficelé d'avance.
Dans le fond, nous l'avions répété, nous sommes en matière pénale et la responsabilité pénale est personnelle, mais le juge s'est arrangé, n'est-ce pas, à condamner nos clients. Même en l'absence d'un avocat, quand le juge constate qu'une disposition d'ordre public est violée, le juge est obligé d'annuler la procédure. Et nous l'avions dit, nos clients ont été enlevés, pas de manière normale parce qu'ils n'ont jamais reçu la convocation de la police et les juges étaient partis d'ici. Ils savent que le territoire dans lequel ils s'en vont, c'est pas du ressort du tribunal de grande instance de N'Djamena. Et sur toutes ces irrégularités, ils ont fermé les yeux. Ils l'ont fait parce qu'ils ont une mission à exécuter, c'est tout. Nous, comme nous sommes du collectif, on va se rencontrer et naturellement, on va relever appel de cette décision-là.
Aucun commentaire du côté des avocats de l'État tchadien pour l'instant. André Kordouma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, la tension monte au sein de la classe politique. La majorité présidentielle et l'opposition se déchirent sur un projet de modification de l'actuelle constitution du pays. Certaines personnalités politiques affirment avoir fait l'objet de menaces de mort. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Cette tension, qui peut être vue comme une crise politique, est née à la suite d'une proposition de loi faite par le député Brice Kevin Kapayene, président de la commission loi et texte à l'Assemblée nationale et membre du parti au pouvoir, le MCU. Le parlementaire propose la révision de certains articles de la Constitution, dont l'article 35 qui limite la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois. Il présente sa motivation.
Pourquoi nous devons modifier cette Constitution-là ? Cette Constitution a été influencée par la main extérieure. Les experts qui étaient venus, l'ANC est devenu leur laboratoire où tout doit s'apprendre ici. C'est-à-dire, on vient là, on impose. Et comme nous sommes spécialistes d'accepter, de copier, là-bas et de faire coller chez nous, c'est comme ça que cette constitution a pu regorger. On a vu introduire dans cette constitution-là certaines institutions budgétivores.
La réaction ne s'est pas fait attendre. L'opposant Dominique Désiré Hérénon, constitutionnaliste et enseignant à l'université de Bangui, tacle le pouvoir et affirme que l'actuelle Assemblée nationale n'a aucune légitimité de modifier la Constitution.
Aujourd'hui, comme le Sénat n'a pas vu le jour, la Constitution a donné la totalité du pouvoir législatif à l'actuelle Assemblée nationale, c'est-à-dire pour voter uniquement des lois, mais pas pour réviser la Constitution. Ce qui relève de ce que nous on appelle en droit constitutionnel le pouvoir constituant dérivé. Et ce pouvoir constituant dérivé n'a pas été attribué à l'actuelle Assemblée nationale. Ça, c'est l'article 156 et c'est clair. Donc, il ne faudrait pas que l'Assemblée nationale actuelle pense détenir un pouvoir qui ne lui a pas été attribué, qui ne lui a pas été reconnu par la Constitution du 30 mars 2016.
Faux. Rétorque Mathurin Dimbélé Nakoué, président de l'association Centrafrique Debout, un des initiateurs du projet. Il accuse le constitutionnaliste de volte-face.
Ce qui m'indigne dans la déclaration de M. Hérénon, c'est qu'il a simplement oublié de dire que lui, il est un des initiateurs de ce que le député Kapayene a eu le courage de publier aujourd'hui. Il a été dans le comité qui s'était rendu à Boali pour entreprendre la rédaction de cette révision constitutionnelle. C'est lui qui faisait le secret à Boali. La plupart des idées innovantes qui sont dans cette proposition de loi viennent de Hérénon.
Conséquence de cette mésentente politique, plusieurs opposants et personnalités qui rejettent cette initiative de la modification de la Constitution se disent menacés, voire traqués. Dominique Désiré Hérénon déclare avoir fui le pays juste après son intervention sur les ondes des radios locales. Saint-Cyr Tanza, président de la plateforme des jeunes de l'opposition, se dit lui aussi menacé.
J'ai reçu 5 appels de menaces. 2 appels préméditation, ce sont les femmes, et les 3 autres, c'est menace de mort.
De son côté, le gouvernement rejette toute responsabilité dans ses messages de haine et menaces qui visent ses leaders de l'opposition et autres personnalités politiques. Serge Ghislain Diori, ministre de la Communication et porte-parole.
Il ne faut pas confondre le fanatisme ou bien le clanisme avec la position du gouvernement. Je tiens à rappeler que toutes ces associations ou le groupe des gens n'ont rien à voir avec le gouvernement. La position du gouvernement est clair, c'est une position impartiale.
Des associations et organisations proches du pouvoir se mobilisent depuis quelques mois pour exiger la révision de certains articles de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016, des articles qu'ils jugent caduques et en déphasage avec le contexte actuel du pays, un projet rejeté par l'opposition. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Bénin, la douane a intercepté environ 400 tonnes d'engrais et d'intrants agricoles subventionnés par l'État, qui étaient sur le point d'être frauduleusement sortis du pays. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Jeannette Flair, à Dandé.
Des camions chargés d'intrants agricoles a résonné dans le nord du Bénin. Les autorités béninoises se demandent depuis combien de temps ce genre d'opération se fait et qui sont les personnes derrière cette filière qui semble bien structurée. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, c'est inacceptable que des Béninois aient pu penser mettre à mal le secteur agricole par de tels actes.
En l'espace d'un mois seulement, près de 400 tonnes d'engrais sont en instance de départ. Nous avons sorti un communiqué pour dire que toute sortie de ces produits reste une infraction à la loi. Malgré cela, il se fait que des gens animés de mauvaise foi pour mettre à genoux l'économie du Bénin sont en train de tenter de faire sortir ces intrants-là.
Dans le souci de faire face aux conséquences que pourrait avoir l'inflation actuelle sur les produits agricoles, le gouvernement avait financé et stocké les engrais intrants. Environ 54,6 milliards ont été investis comme subvention pour que le sac d'engrais revienne à 14 000 francs CFA aux agriculteurs. L'ancien député Yakubu Malehossou dénonce ces actes et appelle le gouvernement à décourager les coupables.
Et je demande à ses compatriotes d'avoir pitié de ce pays. Les engrais subventionnés. Et on amène ailleurs pour pouvoir gagner de l'argent. Je crois qu'on doit les sanctionner à la dernière rigueur pour que cela ne se renouvelle plus.
Pour Abdoulaye Moumouni, l'un des éléments de la douane ayant intercepté les camions d'engrais, il est important que ceux qui excellent dans ces genres de dérives sachent qu'ils risquent des peines d'emprisonnement.
Et ceux qui s'adonnent à ces genres d'opérations, non seulement les positions saisies, mais ils encourent des peines privatives de liberté allant jusqu'à 2 ans. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux populations qui ont intérêt à collaborer avec l'administration des douanes en mettant à sa disposition des informations nécessaires pour qu'on puisse identifier tout ce qui s'apprête à donner à ces gens de pratique.
Environ 67 fraudeurs présumés ont été interpellés pour tentative de sortie d'engrais et d'intrants subventionnés. Ils sont de diverses nationalités et attendent de connaître le sort qui leur sera réservé. De Cotonou, Jeanette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
La plupart des pays du monde font face à l'inflation alors que leur économie ne s'est pas encore totalement remise de la pandémie de COVID-19. Ici aux États-Unis, des voix s'élèvent pour presser le président Joe Biden de s'attaquer à la hausse des prix de l'alimentation, des loyers et du carburant. Précision de Michel Quinn, récit de Jacques Aristide.
L'Amérique se voit confrontée à deux dures réalités économiques qui se produisent en même temps au moment où le pays continue de se remettre de la pandémie de coronavirus. Les Américains parviennent à trouver du travail et les salaires sont en hausse, mais les prix augmentent depuis l'année dernière, dont celui de l'essence. La crainte provoquée par l'inflation est un problème pour le président Joe Biden, qui doit affronter les élections de mi-mandat cette année. Un nouveau sondage, ABC News Ipsos, publié dimanche, montre que seulement 28% des électeurs approuvent la gestion de l'inflation par l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Joe Biden a déclaré qu'il continuerait à laisser la Réserve fédérale, qui a resserré sa politique monétaire ces derniers mois, faire son travail. Il entend prendre de nouvelles mesures pour faire baisser les coûts de l'énergie et du logement. Les experts sont d'avis que l'administration Biden doit ralentir l'inflation, mais pas au point de précipiter l'économie dans une récession. Pete Buttigieg, le secrétaire américain aux transports, a assuré que la croissance économique resterait forte. Il s'exprimait dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Ce que nous faisons, c'est nous préparer pour la voie à suivre où vous ne verrez pas ce genre de croissance économique rapide, fulgurante, follement rapide que nous avons eu au cours de la dernière année, mais nous nous attendons toujours à une forte croissance économique et nous travaillons pour qu'il en soit ainsi.
Le prix de l'essence est particulièrement préoccupant. Alors que les prix ont augmenté au cours de l'année écoulée, ils ont bondi au déclenchement de la guerre en Ukraine, la production russe ayant chuté en raison des sanctions occidentales. Pour les républicains, le président Biden n'a pas de plan pour juguler l'inflation. Rick Scott, sénateur républicain de Floride, l'a dit sur Fox News.
Biden's a rich kid. Biden est un gosse de riche. Il n'a aucune idée de la façon de gérer l'inflation. Il n'a aucun plan pour gérer l'inflation. Tout ce qu'il fait est de blâmer tout le monde, y compris Poutine, pour son inflation.
La semaine dernière, l'administration Biden a salué comme une percée diplomatique la décision du groupe des pays producteurs de pétrole d'augmenter l'approvisionnement en pétrole brut au cours des 2 prochains mois.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibour avec vous. Le gouvernement de Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23 que de violents combats ont opposé fin mai à l'armée de RDC. Kigali a démenti et Washington a appelé à la diplomatie pour apaiser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Que pensez-vous de cette nouvelle crise congolo-rwandaise? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez également enregistrer votre message sur notre numéro WhatsApp plus 1 202 297 60 89. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde, Michel Joseph, et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.